Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Nous allons faire cette lecture dans l'évangile de Matthieu, si vous voulez bien donc ouvrir l'évangile de Matthieu, et puis nous allons lire un très court texte. Alors, je rappelle Matthieu chapitre 16, verset 1er, trois versets. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Voilà. Vous le savez aussi bien que moi, mais l'histoire de Jésus, sa vie, son œuvre, a toujours intrigué, eh bien, les hommes d'à travers tous les temps. D'ailleurs, il y a un passage dans l'évangile de Luc où il nous est dit que Jésus a été le relèvement de beaucoup, mais aussi il a été un sujet de contestation. Alors, il y a la personne de Jésus, il y a son œuvre, et puis s'inscrit quelque chose qui véritablement, eh bien, inquiète ou est un sujet de perplexité. C'est dans quel moment tout ce que Jésus nous a dit, ou une partie de ce qu'il nous a dit, va-t-il arriver? Ce sont même les disciples, à un moment donné, lorsqu'ils étaient à Jérusalem, ils accompagnaient Jésus, quelques temps avant la crucifixion. La question était la suivante, mais dis-nous, en quel temps toutes ces choses arriveront-elles, ou se réaliseront-elles? Alors, on va voir cet après-midi à travers tout simplement eh bien ce qu'il nous est proposé dans cette lecture, puisque ce sont ces supposés adversaires, pharisiens, sadducéens, qui vont venir lui poser cette question. Je ne sais pas dans quel état d'esprit ça a été fait, mais en tous les cas, ça a été dit, et ça nous sert d'enseignement aujourd'hui, avec auquel on peut répondre naturellement. Ils diront tout simplement, mais quel miracle fais-tu donc afin que nous voyions et que nous croyions, eh bien, ce que tu fais? Ça, c'était dans Jean, hein. Mais pour ramener la question, nous voyons qu'il était dit, mais à quel signe? Quel signe du ciel vas-tu révéler pour que nous puissions au moins savoir que c'est toi? Alors, Jésus va répondre d'une manière assez étonnante. Il va prendre, ce que les hommes ont l'habitude pour discerner, en tous les cas, les conditions météorologiques, non pas à long terme, mais dans l'immédiat ou dans le lendemain. Et il dira ceci, parce que chacun le savait, hein, quelquefois nous-mêmes, nous pouvons, si nous n'avons pas de grenouilles à la maison, en tous les cas, nous pouvons toujours regarder par la fenêtre, hein, et voir un petit peu, discerner le temps qu'il fera demain. Alors, c'était un monde des mondes de la campagne, hein, même les gens de Jérusalem qui habitaient dans une ville, ils savaient tout ça. Alors Jésus va leur répondre, il dira, mais le soir, vous dites, parce que vous êtes observateur, des choses du ciel. Alors il fera beau, et pour la raison que le ciel est rouge, et le matin, la même chose, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est rouge sombre. Donc il y avait une habitude, et ça c'était quelque chose qui était acquis chez les hommes, qu'il suffisait de regarder un petit peu ce qu'il pouvait y avoir, et puis, vous savez que les gens de la campagne ne se trompent pas, hein. Souvent ils sont très perspicaces. Alors, Jésus de dire à tout cela, mais vous savez discerner les signes du ciel, mais pas de n'importe quoi, et pas n'importe comment, et de quel ciel s'agit-il? Alors vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne savez pas reconnaître les signes des temps. Et c'est précisément les signes des temps que nous allons aborder maintenant, parce qu'il y a les signes du ciel et les signes des temps. Alors on va regarder ça. Le cœur de l'homme, et nous le savons, la Bible le dit fréquemment, a une tendance à la fermeture et à l'incrédulité. C'est-à-dire que il l'affirme, eh bien si je ne vois pas, je ne croirai pas. Or, ce que nous allons dire, si on a des yeux et si on a un peu de perspicacité, eh bien tout ce qui a été fait depuis les débuts de l'histoire jusqu'à maintenant, il y a des choses qui sont probantes. Et pourquoi demander des signes venant du ciel, puisque de toute façon ils sont déjà là, ils sont déjà au milieu de nous. Et le meilleur rappeur que nous puissions en avoir, ben c'est tout simplement l'Écriture sainte. Et je ne parle pas seulement du Nouveau Testament, je parle de aussi tous ces signes qui ont, eh bien là, finalement été tellement marquants et tellement présents dans toute la Bible, y compris l'Ancien Testament. Alors, Jésus va dire à ses interlocuteurs, ou en tous les cas à ses questionneurs, il va dire, mais vous savez lire, et vous savez interpréter votre environnement avec votre tête, parce qu'il y a des habitudes, vous l'avez appris. Ce sont des choses que on vous a transmises. Ce sont des choses qui sont des acquis pour vous. Mais Jésus d'ajouter en quelque sorte, hein, parce que c'est ce que ça veut dire, en ce qui concerne les choses de la terre, les choses matérielles, savoir comment vous allez pouvoir vous organiser pour prévoir ceci et cela, demain, après-demain, etc., etc. Mais Jésus va souligner une chose, et il leur dira sous d'autres manières, vous êtes totalement aveugles, vous êtes frappés de cécité, et en plus vous êtes ignorants de votre destination. Vous ne savez pas où vous allez. On pourrait reprendre les paroles de Paul en disant, mais ils sont étrangers à la vie de Dieu. Parce que Dieu parle. Et ça, on le sait. Il parle de différentes manières. Alors, on a justement ces signes des temps qui nous sont rapportés. Je vais faire un survol, hein, parce que on va pas rentrer dans les détails, mais ça peut être intéressant. Montre-nous des signes du ciel. Oh, ils s'attendaient certainement à voir encore et encore et encore, eh bien, un miracle, quelque chose de transcendant. Eh bien, peut-être un aveugle ouvrait les yeux, ils en avaient bien besoin, eux qui ne voyaient pas. Hein. Pas de la même manière, mais ils ne voyaient pas. Ou alors, de voir un mort ressuscité, de voir un prodige de la nature, tel que la tempête qui se calme, etc., etc. Alors, ce sont des signes du ciel. Et on sait très bien que la réponse, elle nous est donnée aussi dans un autre évangile, c'est l'évangile de Jean, où il nous est dit que Jésus, malgré tant de miracles qu'il avait fait au milieu d'eux, eh bien, ils ne croyaient pas. Alors, je le répète, pour ceux qui l'auraient oublié, mais c'est pas le miracle qui donne la foi. C'est la foi qui conduit au miracle. Parce que je crois à la parole de Dieu, alors à ce moment-là, mon cœur, les dispositions qui sont en moi, vont me conduire à la réalisation de l'action de Dieu. Et Dieu a besoin, enfin, Dieu, il lui est nécessaire de trouver la foi dans les cœurs pour pouvoir agir et se manifester. Alors en ce qui concerne l'espace, le temps et l'espace, eh bien on y arrive. On pourrait peut-être généraliser en disant que le signe du ciel par excellence, c'est la prophétie. Voilà. Ou tout simplement Dieu s'est révélé aux hommes avant les temps de réalisation de ceci et cela en leur parlant par les prophètes, donc la prophétie. Le véritable signe qui devrait parler aux hommes d'hier comme d'aujourd'hui, eh bien, c'est la vie de Jésus et sa présence. Alors, qu'est-ce qu'il en est? On va prendre, mais je cite les textes comme ça, on va prendre, nous pourrions dire, le livre qui est le livre, le pré-évangile, c'est-à-dire le livre du prophète Ésaïe. Quelques citations dans les psaumes également. Mais s'il y a un livre qui nous parle prophétiquement de la venue de Jésus, qui est marqué d'une manière tellement évidente, avec force de détail, ou lorsque nous qui sommes maintenant, eh bien, dans un temps qui a avancé, qui aurait dû parler et interpeller les citoyens de Jésus, les contemporains de Jésus, qui connaissaient quand même, eh bien, les prophéties d'Ésaïe, puisque ces paroles de Dieu prophétiques ont été, prédictions prophétiques ont été annoncées 800 ans auparavant, ça aurait dû dire, mais voilà, c'est lui. Et on s'aperçoit que ça n'a pas été le cas. Alors, on revient justement à ces signes des temps, accomplissement de la prophétie à travers, eh bien, ce que nous en dit le prophète Ésaïe. Premièrement, je vous ai dit que le signe probant d'un signe du ciel venant de Dieu, c'est la présence et c'est la vie de Jésus au milieu des hommes. Ça a été marqué d'une manière particulière. D'abord sa naissance. Je cite, hein. C'est pourquoi dit le prophète, le Seigneur vous donnera un signe, voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ça devait être inscrit. C'est pas possible autrement. Et nous voyons que ça, c'était une annonce bienveillante de la part de Dieu, que Dieu n'était pas contre les hommes, mais il était avec nous. Dieu avec nous, Emmanuel, c'est la signification. Qu'en plus de ça, cet enfant porterait un nom, naturellement, mais qu'il serait rempli du Saint-Esprit. Et la prophétie donc se décline de cette manière, toujours par Ésaïe au chapitre 11. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et nous voyons que lorsque nous prenons en considération la vie, la présence de Christ, lorsqu'il est venu au milieu des hommes, à travers ses paroles, à travers ses enseignements, à travers la manière dont il traitait merveilleusement les questions qui lui étaient posées ou qu'il échappait aux questions captieuses, à travers les conseils, à travers la manifestation et le déploiement de force et de puissance, eh bien, c'était la réalisation de ce que nous venons de lire. Esprit de force, de connaissance, de crainte de la part de l'Éternel. Et qui plus est, déjà enfoui dans une autre prophétie, mais qui est peut-être un peu moins connue, un autre prophète après Ésaïe s'est levé, il s'appelait Joël. Il dira non seulement il viendra faire la démonstration de cet esprit de Dieu, de cette intelligence de Dieu, mais quand il viendra, il baptisera les hommes du Saint-Esprit. Ce sera une réalité. Ça fait partie justement des signes du ciel. Et j'aurais tendance à dire, comme le prophète Ésaïe le dit aussi dans chapitre 53, mais qui a reconnu la voix, qui a reconnu le bras de l'Éternel et qui a cru à la prédication de son message. Ça, ce sont des signes. Il y a également quelque chose qui remplit les pages de notre évangile, de nos évangiles, puisque nous parlons de puissance, de déploiement de cette grâce, de cette manifestation de la compassion de Dieu, ce sont les actes de guérison et de délivrance que Jésus a manifestés, signe du ciel. Toujours Ésaïe, chapitre 35. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Ça nous fait penser à Bartimée. Ça nous fait penser à d'autres qui sont là, eh bien, dans l'infortune de cette situation. Alors s'ouvriront les oreilles des sourds. Vous savez, quand Jésus a touché les oreilles, là, d'un certain sourd. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Est-ce que ça nous rappelle pas également, en effet, celui de la belle porte du temple? Et puis, il y en a bien d'autres dans l'évangile. Et le boiteux sautera comme un cerf, la langue du muet éclatera. Eh bien, de joie. Là, ce sont des signes du ciel. Qu'est-ce que l'on s'attendait? Les Juifs de l'époque de Jésus avaient tout cela autour d'eux. Que ce soit en Galilée, que ce soit dans les pays avoisinants, pour des nations qui n'avaient rien à voir avec les Juifs, mais qui bénéficiaient aussi de la table qui tombait, des miettes qui tombaient de la table de leur maître. Et puis à Jérusalem, qui était véritablement, eh bien là, le centre, nous pourrions dire, de cette manifestation messianique. Alors, les malades guéris, à tel point qu'il nous est dit que ce sont des foules. C'était des centaines et des dizaines de personnes qui se pressaient pour être au bénéfice de cette grâce. Signe des temps. Et quand on sait que les signes des temps sont encore pour nous aujourd'hui, parce que Jésus baptise du Saint-Esprit, Jésus guérit, Jésus parle, rien n'a changé. Il y a aussi cette belle parole, toujours dans Ésaïe, chapitre 61, « L'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Et un des aspects, par-delà la guérison physique, la guérison des corps, il y a eu quelque chose qui est profondément touchant et profondément émouvant, c'est Jésus qui se penche sur tous ces gens qui sont malheureux, mais malheureux de l'âme. Oui, guérir les cœurs brisés, relever ceux qui sont dans l'abattement, ceux qui ont perdu courage. Et nous voyons que cela, eh bien, c'était déjà annoncé depuis bien longtemps, et Jésus l'a réalisé. Alors pourquoi ces gens demandaient-ils des signes du ciel, puisqu'ils les avaient devant eux? Et pourquoi notre temps aujourd'hui demande à Dieu de se révéler, de se manifester? Parce qu'il veut il veut croire pour voir. Or, les choses étaient dites, et qui a cru malgré qu'elles étaient dites et qu'elles se sont réalisées devant leurs yeux? C'est ça le problème. Signe des temps, allons un peu plus loin, quelque chose qui a manifesté toute la divinité, la messianité de Christ, ce sont ses enseignements. Dans Ésaïe 42, il nous est dit « Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne brisera point le roseau cassé et n'éteindra point le lumignon qui fume, il annoncera la justice selon la vérité. » Jésus n'est jamais venu comme un bonimenteur, excusez-moi l'expression, comme un homme qui crie, un homme qui brise, un homme qui fait de la publicité ou de la propagande pour ce qu'il est ou pour ce qu'il fait. Non, Jésus est passé à travers les hommes de son temps. Il s'intéressait à la souffrance, il s'intéressait aux besoins, au désespoir des hommes, et il leur apportait une parole. Et cette parole était susceptible de faire naître dans leur cœur la vraie foi. Et quand bien même il restait qu'une petite lueur, une petite flamèche, eh bien il nous est dit qu'il n'a pas soufflé, en tous les cas pour l'éteindre. Si, il a soufflé de son esprit pour qu'elle puisse être, eh bien, ça ranime tout à nouveau. Voilà un signe des temps. Quand nous entendons ces paroles pleines de douceur du sermon sur la montagne, elle est véritablement, ces paroles, ces enseignements sont vraiment faits pour ceux qui sont cassés, pour ceux qui ont été accidentés dans la vie, pour tous ceux qui ont un immense besoin d'autre chose, où il y a vraiment l'esprit de réconfort, l'esprit de la tendresse. Et c'est pourquoi ça s'appelle une bonne nouvelle. Allons encore plus loin, signe du ciel. Eh bien, à travers ce qu'il a accompli pour notre rédemption, dont on peut parler de ses douleurs et de ses souffrances. Ésaïe 50. C'est ainsi décliné. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai point dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Imaginez-vous, cette foule hurlante, cette foule vociférante, ce fameux jour où Jésus était sur la croix avec deux de ses, pourrions dire, ces deux crucifiés. Et tous ces gens étaient à regarder, complètement ébahis, ne sachant ce qui se passait. Et pourtant, les mêmes gestes, dans la précision de ce que ça avait été dit prophétiquement, eh bien, ont été véritablement accomplis, la croix. Mais les souffrances, ce n'était pas le terme de ces signes du ciel. Il fallait qu'ils passent par la mort. Dans le psaume 22, qui est le psaume qui fait la plus belle description, la réalisation prophétique de ce que Dieu a dit, de ce que Dieu va faire et de ce que Dieu a fait, il est dit ceci, « Ils ont percé mes mains et mes pieds, et ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » Si vous reprenez les évangélistes ou les évangiles, eh bien c'est précisément et en cela que Jésus eh bien, réalise les prophéties divines sur sa personne. Alors, quelle troublante similitude, ce ne sont même pas des coïncidences ou des similitudes, c'est tout simplement une parole dite, une parole qui s'accomplit, à travers la mort. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la même chose a été dite aussi prophétiquement que celui qui est mort, il est ressuscité maintenant. C'est ça la grande différence, c'est cela, c'est la résurrection. Dans le psaume 16, réalisation, signe du ciel, il est dit « Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Alors que certainement dans le monde des ténèbres, le diable se frottait les mains en voyant Jésus pendu à la croix, dans ce demi-jour ou cette demi-nuit, alors qu'il y avait là des phénomènes très inquiétants tout autour, puisqu'il nous est dit que la terre, eh bien, s'est entrouverte, que la nuit est tombée finalement là dans plein après-midi. Ça devait être quelque chose qui devait interpeller naturellement. Mais pourtant, il y avait cette parole. Alors que les hommes, après avoir crié des injures et leur haine contre Jésus, vont à ce moment-là se taire, parce qu'il y a tout un environnement qui est infernal. Et au moment même où Satan pense qu'il a pris la victoire sur le Messie, sur le Fils de Dieu, c'est à ce moment-là que tout se retourne, et on emmènera quand même Jésus dans un tombeau, mais il n'y restera pas. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption, que ton oint voie la corruption. Et vous savez que la résurrection a fait beaucoup de bruit, puisque nous en parlons encore aujourd'hui. Et nous mettons encore, eh bien, à l'honneur dans des fêtes que l'on appelle des fêtes religieuses, eh bien, le sacrifice de Jésus et la résurrection. Mais on y croit comme un fait culturel, tout simplement. Si nous posons la question dans notre temps, on dira, bah oui, Pâques, c'est un week-end, hein. Ça fait un peu dur quand même. Là, on est très éloigné de finalement ce que ça peut vouloir dire. Et tant d'autres prophéties. Cette parole qui vient ensuite, ainsi s'accomplit ce qu'ont dit les prophètes. Un miracle. Oui, assurément, des miracles. Et nous l'avons lu tout à l'heure, mais une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. C'est ça, justement. Parce qu'on ne veut pas croire. Vous connaissez l'histoire de Jonas. C'est un livre, Jonas. Un livre d'un homme qui fuit Dieu. Et qui pourtant va être vaincu à la fin. Dans ses résistances et son opiniâtreté contre Dieu. Et pourtant il sera vaincu. Je vous le dis, dira Jésus, il y a plus que Jonas, il y a plus que la reine de Saba, il y a plus que Salomon. Parce que le refus de croire est tragique, même si nous sommes avertis à l'avance. Je pense que nous sommes des gens sensés. Quand il y a des interdictions dans notre société, on essaie de pas, on va pas les défier. On sait très bien que quand on doit s'arrêter à un feu rouge, faut s'arrêter parce que ça engage notre vie et encore davantage celle des autres. Puis dans bien d'autres domaines, c'est la même chose. Si l'histoire d'Israël, puisque c'est au cœur de tout ça, si l'histoire d'Israël a été jalonnée de faits et de prophéties annoncées par de simples hommes que l'on appelait des prophètes, ils venaient, ils avaient de toutes sortes d'origines, eh bien, se sont accomplis. Alors écoutez bien la suite, à combien plus forte raison maintenant notre histoire, c'est-à-dire la nôtre. C'est-à-dire que depuis que le christianisme est apparu, 20 siècles en gros, mais notre histoire à nous, alors à plus forte raison notre histoire est marquée par des signes annoncés cette fois non pas par des anges, non pas par des prophètes, des hommes qui vont être inspirés de Dieu, mais par la bouche de Jésus, lui-même. Jésus est prophète, hein. Alors on va voir ça. Ce sont les signes des temps. Signes du ciel, signes des temps. Jésus dira cette parole ô combien pertinente à ses amis qui l'écoutent. Il dira « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. » Image familière pour des juifs, naturellement. Et il attire leur attention, leur réflexion. Il dit « Mais dès que vous voyez que ces branches deviennent tendres, et que ces feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. » On en ferait de même chez nous, peut-être pas avec un figuier, mais peut-être avec tous les arbres. Là, d'ici un mois et demi, vous allez voir comment la nature va ressusciter, comment elle va renaître, et on sait très bien que de toute façon, on va vers des temps de chaleur, des temps où, eh bien, l'hiver sera derrière nous. Jésus poursuit, « De même, vous, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, est à la porte. Nous sommes beaucoup plus près aujourd'hui du retour de Jésus que nous pouvions l'être. Eh bien, des hommes qui ont vécu il y a 5 siècles, 20 siècles, ça c'est certain. C'est pourquoi il nous est demandé de relever la tête et de bien observer les choses. De bien regarder un petit peu tout ce qui se passe. Et nous allons voir que c'est quand même assez intéressant. Parce que Jésus revient bientôt. 360 fois, si ma mémoire est fidèle, dans, naturellement, le Nouveau Testament, il nous est parlé du retour, de la proximité du retour de Jésus-Christ. Ce n'est quand même pas une petite doctrine. 360 fois. Ça nous est rappelé, martelé pour nous dire, mais tenez-vous prêts, il est là. Regardez le figuier, regardez ses branches, regardez ses feuilles. La vie va revenir. On sait très bien, par la connaissance que nous avons de l'Écriture sainte, que Jésus est venu une première fois pour réaliser deux choses. Il est venu pour sauver les hommes en faisant l'expiation de leurs péchés. Ce n'était pas possible autrement. Le salut et la rédemption ne peut pas passer autrement que par la venue, venir, mais il est venu dans l'humilité. Il est venu comme un homme dépouillé. Il a laissé sa gloire, mais il est venu pour apporter ce message qui est avant tout un message de grâce. C'est pas le message de la loi, c'est un message de grâce. Et lui-même, Jésus le dit, qu'il reviendra une deuxième fois pour juger le monde incrédule et enlever avec lui son Église. C'est ce qu'on appelle naturellement, eh bien, la réalité. C'est de l'eschatologie, hein. En théologie, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, le retour de Jésus-Christ. Mais nous le savons, ça, pertinemment. Le 21 décembre dernier, certains sont montés sur la montagne pour voir s'il se passait pas quelque chose, vous comprenez? Mais ça n'avait aucun fondement, et ça ne s'appuyait que sur des légendes, des contes, hein, et toutes sortes de choses fallacieuses. Mais qui aurait encore dans le monde a vraiment à cœur d'ouvrir une Bible et de dire, mais voilà, je me posais la question parce que j'ai entendu dire que Jésus revenait, et de reprendre tout ce que nous sommes en train de dire pour véritablement sonder le temps et les circonstances du retour de Jésus-Christ. On n'en est pas loin. Je ne veux pas vous dire que ça va se passer cette nuit ou demain matin. Ça serait complètement faux et je serais hors course. Mais nous nous préparons, enfin, nous les chrétiens, bientôt à son retour qui nous verra enlevés dans le ciel. Alors ça paraît tellement fantasmagorique, toutes ces histoires. Et pourtant, ce sont des réalités. Ce sont des choses. Tout autant que les Juifs du temps de Jésus, lorsqu'ils ont vu cet homme, ce prédicateur de Galilée, n'avait jamais eu, ça même pas monté à l'esprit. Et pourtant, ils observaient la parole tous les jours, hein. C'était des scribes, c'était des docteurs de la loi, mais ils n'ont rien vu du tout. Jésus nous rappelle, dans ce que j'ai lu tout à l'heure, qu'il y a un signe des temps, qu'il nous faut regarder vers ce petit arbre qu'on appelle le figuier, quand il mûrit, hein, c'est tout simple. Parce qu'il annonce l'été, et l'été c'est la moisson. C'est la moisson des sauvés, dans un premier temps, et après, ce qu'on appelle la parousie, le deuxième retour, mais c'est toute une chronologie, après c'est le jugement des nations, voilà. Et Jésus prendra soin, après cette petite parabole du figuier, de nous dire, pour qui veut l'entendre, je vous ai tout annoncé d'avance. C'est un luxe de précaution. Mais il l'a dit. Alors, quand vous verrez ces choses, mais quelles choses pouvons-nous nous interroger? Alors le but des choses que Jésus nous a transmises, eh bien c'est, elles ont valeur de prophétie, ce sont des prédictions. Et leur accomplissement détermineront la proximité de ce retour de Christ. Et par ordre d'importance, si je prends l'évangile de Luc, il nous est dit, il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux. Alors ça, c'est un lieu commun, c'est quelque chose que nous connaissons tous. Mais quand on voit qu'il y a toujours eu des tremblements de terre, et des tremblements de terre terribles dans l'histoire de l'humanité, mais ce qui interpelle peut-être les sismologues aujourd'hui, c'est la fréquence. Et vous savez que c'est encore profondément meurtrier, puisque si nous regardons, ne serait-ce qu'en 2010, c'est-à-dire que ça fait 2 ans, Haïti, plus de 250 000 personnes ont disparu dans ce tremblement de terre. Et malheureusement, 2 ans après, on l'a déjà tout oublié. Parce qu'il y en a eu d'autres depuis, des catastrophes. Il y a eu Fukushima, et puis on ne sait pas si demain matin, on ne va pas apprendre quelque chose de semblable. Alors c'est la fréquence. Donc Jésus nous le dit. Recrudescence incontestable de séismes, de convulsions de notre planète, et c'est quelque chose dont nous avons besoin de faire attention, mais bon, on dira, mais c'est la nature, c'est comme ça, et si l'homme n'y met pas la main aussi pour accélérer finalement le processus, ce qui ne serait pas étranger. Il y a prélude à cette prophétie de Zacharie du retour de Jésus, écoutez, Zacharie c'est dans l'Ancien Testament, hein. Il nous est dit que la montagne des Oliviers se fendra. Et si vous avez l'occasion d'aller à Jérusalem, tout est prêt là. Ouais, c'est assez impressionnant quand on se remet un peu dans la configuration et que vous allez dans ce pays, naturellement, on voit qu'il y a des choses qui sont déjà toutes prêtes. C'est curieux, hein. Dans Luc, je reviens à Luc. Luc chapitre 21, verset 25, il y aura par-delà les grands tremblements de terre. Il y aura ce que je pourrais appeler des grands tremblements de terre intérieurs dans la vie morale et dans la vie profonde, psychologique des hommes, à les ébranler. Mais il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Oh, c'est terrible ça, hein. L'angoisse, l'incertitude du lendemain est en train de bouleverser les hommes. C'est vrai qu'ils se bouleversent eux-mêmes par manque peut-être de sagesse dans la gestion et dans l'hygiène de leur vie. Ça, c'est certain. On voit un monde qui se découle, qui se défait. Bon, ça, c'est un aspect des choses. Mais quand on voit cette ampleur d'état de dépression de gens qui sont complètement là paniqués au bruit de la mer et des flots, c'est symbolique. On l'a vu quand on a fait l'étude de l'Apocalypse, le bruit de la mer et les flots, les gens rendront l'âme de terreur. C'est-à-dire, avec les agitations du monde, on parle de guerre, on parle de dévastation, on parle d'invasion, on parle de toutes sortes de choses, les menaces de différents ordres. Alors il y aura de l'angoisse dans les nations. Ça, ça fait partie d'un climat moral dans lequel nous sommes bien rentrés. Ça a toujours existé. Mais et puis il y aura donc toutes ces catastrophes naturelles, les raz-de-marée, on en a eu l'effet là au Japon, les typhons, la mer. C'est-à-dire l'image du monde, ce monde qui va augmenter en démographie. Maintenant, pour compter, on a du mal. Je crois qu'on va arriver bientôt à 8 milliards, non, 7, 8 milliards. Je ne sais plus. Moi, j'ai arrêté de compter, je ne peux plus. Alors, mais toujours est-il que ça pose des problèmes, la démographie mondiale. Nous, chez nous, on est encore tranquille. Bon, ça va. Mais quand vous voyez, par exemple, des pays comme... c'est bouleversant, c'est stupéfiant, par exemple, la Chine. Combien ? 1,4 milliard ? Waouh ! Les Indes qui ont dépassé le milliard, et puis des pays qui ne sont peut-être pas forcément très très grands en territoire, et qui sont là, dans une concentration humaine, avec tout ce qu'il peut y avoir. J'espère que vous allez pouvoir dormir cette nuit, parce que, dis donc, mais quand on voit qu'il est prévu, avec le réchauffement de la planète, que tous ceux qui sont sur les côtes littorales des pays, des continents, vont être obligés de se remettre un petit peu à l'abri devant les séismes, il va y avoir de l'immigration. Et ça va peut-être pas se passer comme ça, mais ce sont les phénomènes, phénomènes de notre monde. Il nous est parlé des pestes également dans Luc chapitre 21. Il y aura en l'hiver Dieu les divers lieux des pestes. Il y en a toujours eu. On se souvient, enfin moi je m'en souviens pas, j'étais pas né, mais la peste au Moyen-Âge, la peste noire. Et puis pour se souvenir, il y en a eu aussi en France. Il y avait un film, une émission, il y a à peu près 3 semaines, 1 mois. Il parlait de la peste de Marseille. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Au 21e siècle, ça ne nous dit pas grand-chose. Mais pour les gens du 19e siècle, c'est quelque chose. C'était effarant. Et il y en a eu d'autres à travers les temps. Bon, la grippe espagnole, est-ce que c'était pas... Vous vous rendez compte, la grippe espagnole a fait plus de victimes. La maladie a fait plus de victimes que tous ceux qui sont morts sur les champs de bataille pendant cette période. Et en espace de combien ? 6 mois, 1 an, c'est terrible. Mais avec la guerre vient toutes sortes de choses, la famine, la peste et tout ça. Les pestes noires, tout ça. Alors, c'est vrai que la science essaie de rattraper le mouvement pour progresser. Puis il y a des maladies modernes aussi qui sont liées au climat moral ou mental des gens aujourd'hui. On se dit, moi je ne sais pas combien il y a eu de décès autour du sida depuis 1982, à peu près. Je ne sais pas, mais ça se compte en millions dans le monde entier. Et c'est très préoccupant pour certains pays, parce que c'est des nations qui sont décimées avec ça. Ouais. Alors les pestes. Et puis, à travers les armes chimiques et les armes bactériologiques, c'est encore plus redoutable. Les pandémies, les épidémies, c'est terrible, naturellement. Il nous est dit également, c'est toujours... Alors c'est Marc qui le dit, dans les famines. Il y aura des famines. Alors, on parlait de démocratie, ça se comprend. Parce que le partage des richesses de notre monde, on en parle tous les jours. Il y a de plus en plus de riches, il y a de plus en plus de pauvres. C'est vrai, c'est curieux. Alors que je pense que Dieu a fait le monde pour que nous puissions partager ensemble. Mais quand on voit l'avidité des hommes pour leur industrie, pour leur enrichissement, parce que tous nos pays occidentaux, faut quand même pas se leurrer. Si nous sommes riches, c'est que nous avons été le chercher ailleurs. Je ne cite pas, mais quand même. Alors, on a donné ça, on a donné un nom à tout ça, naturellement, mais... Alors, c'est ça. On parle de tiers-monde, on parle chez nous de quart-monde, les sous-alimentés. Est-ce que ça ne viendrait pas, justement, du cœur profondément égoïste de l'homme? Dans Matthieu, chapitre 24, il nous est dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. » Je ne sais pas si depuis 15 jours vous avez entendu quelques informations, mais j'ai pas trop entendu qu'il y avait des guerres. Non ? Me semble-t-il. Ah, mais j'ai peut-être pas fait attention. Vous entendrez parler, 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 parler. Alors il y a peut-être des choses qui sont des réalités, mais comment elles nous sont communiquées ? On parle aujourd'hui d'intoxication, de désinformation et toutes sortes de choses. Je veux bien croire qu'il y a des parts de vérité. Il y a une chose qui me choque profondément en ce moment. Moi, c'est la Syrie. On n'en entend plus parler du tout. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a un travail qui se fait abominable. C'est que, il y a quelque temps, on en parlait, on nous disait, bah oui, il y a encore 100 morts et tout ça. Aujourd'hui, c'est plus ça, hein. Parce que ça se fait dans le, voilà, c'est l'omerta, on n'en parle plus et tout ça. Mais c'est pas pour ça que c'est terrible. Et voilà le monde. Voilà ce monde. Vous entendrez parler de guerre, confrontation raciale, confrontation religieuse, parce que là, on s'attend peut-être à quelque chose qui risque d'être étonnant. Bloc sur bloc. Ouais, le monde de la haine. Pour s'accaparer ceci et ceci. Il y a un point positif dans les signes des temps. C'est l'évangélisation du monde. C'est tout simplement, eh bien, là, dans Matthieu, il nous est dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Imaginez-vous. Ouais. Mais c'est pas chez nous. Nous, on a eu notre temps. C'est dommage que ça revienne pas, hein. Mais aujourd'hui, quand on entend les nouvelles, malgré les persécutions des églises, des chrétiens, des missionnaires, on s'aperçoit d'une chose, c'est que sur d'autres pays, eh ben, ça marche, hein. Si vous avez des nouvelles de la Chine qui commencent à s'ouvrir, on s'aperçoit que c'est extraordinaire. Ouais. Ce qui se fait dans ces pays-là. Alors, cette propagation de l'évangile, la traduction de la Bible, ça c'est étonnant, on n'en parle pas souvent, mais on a au milieu de nous, parmi nos églises évangéliques, des gens, des hommes et des femmes qui consacrent toute leur vie, vraiment, et ça c'est un travail de longue haleine, pour traduire la Bible, pour traduire le Nouveau Testament, ou traduire une portion, et qui vont réapprendre à vivre avec les gens, pour leur communiquer créer peut-être même un alphabet, une écriture, pour qu'ils puissent entendre l'évangile. Ça, c'est un travail extraordinaire. Et puis, il y a aussi un signe des temps, c'est les progrès alarmants de l'immoralité. Alors là, on titube, hein, on chancelle, comme le monde, comme s'il était un homme ivre. Il est ivre. Matthieu 24, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. On a encore de belles œuvres dans notre pays, et c'est vrai, je voudrais le saluer, des œuvres humanistes. Mais c'est bien dommage que ce soit pas fait au nom de Dieu, pour que derrière la main tendue pour nourrir des gens ou pour les aider, on ne leur apporte pas l'essentiel, c'est-à-dire le salut en Jésus-Christ. Parce qu'on va les nourrir, c'est normal. Il faut saluer cet acte. Mais on va les laisser mourant de faim dans leur âme et dans leur esprit. Parce que celui qui peut nous donner tout le reste, c'est quand même Jésus. Un homme qui entend parler de Jésus, il va remonter l'échelle de la société, il va retrouver du travail. Oui, 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 du travail, on peut en trouver avec le Seigneur. Si vous en cherchez, eh ben vous priez, vous allez voir à un moment donné, et Dieu vous donnera le nec plus ultra. Il l'a fait pour d'autres, hein. Il faut y croire. Et puis, il y a un signe aussi, c'est l'abandon de la foi et la croyance en Dieu, à cause de l'immoralité. Et cette immoralité sera reconnue comme quelque chose de normal. La criminalité, les souillures spirituelles à travers l'occultisme. La prolifération des sectes. Matthieu 24. Si quelqu'un vous dit le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes qui diront, mais c'est moi. Comme notre brave facteur de Montfavet, qui a fait croire pendant un moment donné, moi j'étais petit à l'époque, mais pour les plus anciens, il a dit, moi c'est moi le facteur, c'est moi qui suis le Christ. Je vous annonce une bonne nouvelle. Il était facteur, c'est normal. Et puis il avait dit, je ne mourrai pas. Le pauvre homme. Il est mort, il a fait comme tout le monde. Hein? La confusion religieuse de notre temps. Et, contrairement à ce qu'on pourrait penser, beaucoup sont séduits. Vous proposez l'évangile aux gens, ils vont vous regarder, ils vont dire, mais c'est pas vrai votre histoire. Vous leur donnez des fausses doctrines et des choses complètement tarabiscotées. Ah, ils vont y aller. Ils vont dire, tiens, j'ai découvert quelque chose, c'est formidable. Quel monde qui fonctionne à l'inverse. Puis je termine. Le rassemblement du peuple d'Israël dans son pays. Ça fait partie des signes des temps. Et c'est pas très éloigné de ça. 1948, quand il nous est dit la reconstitution de la nation d'Israël. Et aujourd'hui, Israël est une petite nation. Grand comme la Bretagne, en gros, hein. C'est pas terrible, hein. Mais une chose qui est certaine, c'est quand même l'épine dans le pied des nations. Ça l'a toujours été, ça le sera. Fort heureusement, jusqu'à aujourd'hui, Israël a encore des amis. Mais jusque à quand? Parce que quand on connaît la perspective, on se demande où on va. Luc 21, « Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, la diaspora, et Jérusalem sera foulée aux pieds par toutes les nations. » C'est ce qui s'est passé pendant près de 2000 ans, jusqu'à la fin de la dernière guerre. Après l'atrocité de la Shoah, où les nations, enfin certaines nations, ont eu à cœur de ramener la nation d'Israël dans son propre pays. Et je peux vous dire que depuis 50-60 ans, c'est la guerre encore. On parle de Jérusalem, ville de paix, mais c'est une ville de guerre. Si vous y allez, vous verrez, c'est la paix pour là. Parce qu'il y a des militaires partout. Hein. Ah, vous êtes tranquille, hein, pas de problème. On se sent en sécurité. Mais jusque à quand? Jérusalem, Salem, paix, salam, shalom. Enfin, je ne peux pas vous décliner ça dans toutes les langues. Mais toujours est-il que c'est ça. Alors, il y a eu tout un processus, signe des temps. La destruction de Jérusalem en l'an 70 par le général Titus. La destruction totale de la Palestine en 135. La disparition, finalement, les Juifs se sont répandus dans le monde entier. Toutes les persécutions, les pogroms qui ont eu lieu dans tous les pays. Le génocide nazi, 6 millions de morts. Et pourtant, la survivance de cette nation, parce que c'est un véritable miracle. Il y a une chose, je vous le conseille. Vous pleurerez peut-être, mais il faut le voir. Si vous allez en Israël, allez voir Yad Vashem. C'est le mémorial de la Shoah. Et là, je peux vous dire que ça ne peut pas nous laisser indifférents. Et ce que nous retrouvons, ce que nous voyons, parce que c'est la reconstitution de toute la persécution, et notamment, eh bien, les camps de concentration et les fours, hein, de crématoires. Mais une chose qui est tout à fait étonnante, c'est que quand vous voyez ça, et que vous sortez après, parce que c'est un musée, c'est immense, hein, et quand vous ressortez, que vous voyez Israël, quand vous voyez Jérusalem, et que vous voyez ce dynamisme, cette ville qui est modèle, ce pays qui est moderne, on se dit, mais c'est vraiment la résurrection de Dieu. Et ça, c'est beau. Un pays que l'on a voulu mettre à mort à travers tous les siècles, c'est un pays aujourd'hui qui est un des plus dynamiques au monde. Sur le plan culturel, sur le plan scientifique, dans bien des choses. C'est un pays qui vit. Dieu est le Dieu de la résurrection. Ouais, là où il y a la mort, là où les ennemis veulent faire mourir, eh bien Dieu donne la vie, quoi qu'il en soit. Signe des temps, leur retour, puisque je vous ai parlé de leur déplacement. Jérémie, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du Septentrion et de tous les pays où il les avait chassés. Et Dieu dit, je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Il est très intéressant de s'intéresser comment est née la nation d'Israël dans notre temps, le sionisme international. C'est vraiment très intéressant de voir que des hommes, qui n'étaient peut-être pas des juifs religieuses, ont eu à cœur et monté au fond de leur cœur ce désir impétueux, eh bien, de rassembler tous les juifs de la terre. Et ça s'est fait avec des obstacles, avec des montagnes, avec des mers rouges à traverser, et ça s'est fait. C'est extraordinaire. 1948. Et l'État d'Israël existe réellement aujourd'hui, signe des temps. Signe du ciel, nous pourrions dire. Et leur conversion spirituelle maintenant, c'est pour quand? Oui. Vous savez qu'elle viendra? L'apôtre Paul nous en parle dans Romains, chapitre 9, 10, 11, me semble-t-il. Et nous attendons la conversion spirituelle. Mais elle viendra. J'ai assisté à une conférence il n'y a pas longtemps. Beaucoup de gens qui sont dans les nations, beaucoup de juifs reviennent en Israël. Et le messianisme se développe de plus en plus. Il est combattu en Israël actuellement. Mais il y a de plus en plus de juifs qui reconnaissent et qui acceptent Yeshua. c'est-à-dire Jésus. C'est une belle chose, signe des temps. On pourrait peut-être parler de la 11e heure. Quelle heure est-il à l'horloge de Dieu? On n'en est pas loin. Hein. Alors, Jésus pourrait nous dire en substance, à notre monde, à nous-mêmes, « Lorsque je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur la terre ?» La grande question, elle est là. Trouverai-je encore la foi sur la terre? On a encore du travail à faire, à prêcher l'évangile, à confesser le nom de Jésus. Alors, je termine. Aujourd'hui, Jésus revient. Enfin, je dis aujourd'hui, mais il revient. Il revient bientôt. Est-ce que nous allons le reconnaître comme sauveur? Parce que tout ce qui est écrit, ça s'est accompli. Les prophéties d'hier, les prophéties d'aujourd'hui, et peut-être de terminer avec cette dernière exhortation, parce que je crois que c'est les mots les plus forts. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Seigneur, ouvre-nous les yeux pour que nous apprenions à reconnaître les signes du ciel et les signes des temps. Alors, que Dieu nous aide et levons notre tête, parce que le figuier fleurit. Il refleurit le figuier. On va prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que tu es merveilleux, Jésus. Oui, Seigneur, tu n'es pas comme les hommes qui marchent à vue, qui marchent avec leur sens, qui marchent avec ce qu'ils ressentent. Mais Seigneur, toi, tu veux que nous marchions avec ta parole. Et tu n'as pas pris les hommes au dépourvu, puisque le Christ lui-même nous a dit « Je vous ai tout annoncé d'avance ». Alors merci pour ce survol de la Bible. Merci pour cette histoire, qui est une histoire qui est en cours, une histoire qui est en route, une histoire qui va s'accomplir. Et si nous regardons véritablement les prophéties de l'Ancien Testament concernant Jésus le Messie, tout s'est réalisé à travers cette première venue. Nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que tu nous as été pour nous le prophète des prophètes et tu nous as dit des choses concernant notre temps, notre monde à nous. Et nous savons, Seigneur, qu'il y a bien des choses qui sont en train de s'accomplir. Il en reste encore quelques-unes concernant ton retour. Mais Seigneur, nous ne voulons pas avoir ni les yeux ni le cœur tournés vers la terre. Nous voulons véritablement regarder vers le ciel parce que Jésus, tu reviens bientôt. Et nous te bénissons et nous te remercions. Visite-nous, Seigneur. Donne-nous de garder ta parole dans notre cœur, de la serrer dans notre cœur. Et ainsi, Seigneur, au lieu d'avoir une attitude de crainte et de peur de ce qui va survenir sur les habitants de la terre, eh bien, nous voulons vraiment, Père éternel, t'attendre dans la joie et l'allégresse, en sachant, Seigneur, que tu nous as fait cette belle promesse, parce que nous avons gardé la parole de la persévérance, nous avons gardé la foi, eh bien, tu nous garderas pour ces temps-là. Et nous te bénissons et nous te remercions, et nous proclamons le retour proche de Jésus, et nous soupirons, Seigneur, à te voir face à face. Merci, notre Dieu. Merci, Jésus, pour ta parole et son accomplissement. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.